Philippe de Cholet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du conseil de surveillance de Matignon Finance. On va parler avec vous de marché, de perspectives sur ces marchés. Comment vous abordez cette rentrée scolaire, entre guillemets, pour les investisseurs, avec un certain nombre à la fois d'inquiétudes, peut-être de points positifs? Comment vous l'abordez-vous?
Écoutez, je l'aborde de façon objectivement positive. Nous avons plutôt plus d'arguments qui militent pour une poursuite de la hausse des marchés que le contraire. Le dernier en date étant bien sûr l'éloignement du spectre d'une guerre en Syrie suite à la proposition russe. Donc c'est clair que ça avait un peu pesé ces derniers jours sur les marchés. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et si l'on se réfère par ailleurs aux dernières statistiques économiques publiées, notamment dans la zone euro, il y a tout lieu quand même d'être un peu plus optimiste qu'avant l'été.
Donc on va dire qu'il y a eu quand même des inquiétudes du côté des pays émergents.
Oui.
Ça a pesé, ça a créé, mais ça a bouleversé justement ce panorama mondial des marchés.
Alors, au niveau de l'allocation d'actifs globale, certainement dans le sens où la thématique des pays émergents, qui a été quand même ces dernières années extrêmement mise en avant, brutalement s'est retrouvée quand même reléguée au second rang. Non pas qu'elle ait disparu, parce que la thématique est une thématique durable, mais c'est vrai que les ajustements monétaires, en particulier dans les pays émergents, le ralentissement de la croissance chinoise, ont certainement changé quand même pas mal la donne. Ce qui explique d'ailleurs les performances en général décevantes des fonds émergents depuis le début de l'année. Donc c'est vrai qu'il y a eu plutôt un regain d'intérêt sur les marchés européens, ce dont on peut se féliciter.
Oui, c'est pas le moindre des paradoxes où la zone euro était souvent vilipendée pour ses problèmes économiques et politiques, et elle a retrouvé de l'attrait effectivement durant cet été, durant les dernières semaines, peut-être par défaut, mais elle a retrouvé un vrai attrait d'investisseurs, y compris américains d'ailleurs.
Ah oui, j'irais même surtout, lorsqu'on lit les papiers des brokers américains, il est frappant de voir qu'ils surpondèrent de façon franche et massive la zone euro. Et l'Europe, d'une façon générale, parce que je pense que l'Angleterre est également sur la voie du redressement. Donc il y a tout lieu de s'en féliciter. C'est un mouvement d'ordre général et la France, sans doute aussi, y participera, peut-être un peu plus à la traîne, mais y participera quand même.
Il y avait eu jusqu'ici plutôt un avantage effectivement sur les États-Unis. On avait vu d'ailleurs il y a quelques mois des records et des valeurs américaines quand même assez bien valorisées. Comment vous regardez-vous, est-ce que cette valorisation, cette question de valorisation entre ces marchés américains, marchés européens?
Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, les marchés américains sont plutôt valorisés dans la fourchette historique haute. Donc, c'est clair qu'a priori, le potentiel de hausse sur les actions américaines est moins élevé qu'il l'est en Europe, en tout cas pour les 6-12 prochains mois. Néanmoins, ne perdons pas de vue que la croissance aux États-Unis est le double de celle qui existe en Europe. Ça se répercutera donc nécessairement d'une manière ou d'une autre dans les résultats des grandes entreprises américaines. Donc, il y a aussi quand même tout lieu de penser que vous aurez une poursuite de la hausse des marchés américains. Néanmoins, j'attire quand même votre attention sur le fait que la question du déficit public aux États-Unis et ses moyens d'y remédier reste en suspens. Des rendez-vous importants auront lieu dans les prochaines semaines. Ceci pourrait ramener donc une certaine inquiétude sur le devenir de la croissance américaine au cours des prochains mois.
Alors, comme beaucoup d'investisseurs, peut-être que vous êtes focalisé sur ce que va dire, ce que va faire la Réserve fédérale américaine, qui est un peu celle qui dicte la loi sur les marchés, en tout cas depuis de nombreux mois. Il y a là aussi un certain nombre de paris, entre guillemets, entre le mois de septembre, sur ce que va faire la Fed. Comment on gère justement dans cette période-là où on ne peut pas être contre la Fed, c'est sûr, mais avec, ce n'est pas toujours facile.
Il y a de toute façon, d'une manière ou d'une autre, un pari à prendre. Si on considère que les banquiers centraux, Fed compris, ont plutôt tendance à accompagner le mouvement de reprise en remontant très graduellement les taux, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. En ce qui me concerne, je n'ai pas a priori de raison de croire que ce qui a été annoncé sera totalement bouleversé dans les semaines à venir. Donc je crois que la Fed procédera certes à une sortie du quantitative easing, ça a été clairement annoncé cet été, mais que cette sortie se fera de façon progressive et que la prochaine réunion de la Fed ne fera que l'entériner.
Il y avait eu quand même des débats sur ce qui allait se passer sur les taux, sur les taux d'intérêt et sur la répercussion sur les actions. On sait que c'est pas sur, historiquement, il y a eu parfois des crises sur les marchés obligataires qui sont répercutées sur les marchés actions. On l'a vu occasionnellement aussi au cours des derniers mois. Comment ça n'enlève rien à la faveur, à être en faveur des actions?
Je pense qu'on ne peut plus établir automatiquement un lien entre hausse des taux et baisse des marchés actions. Ça l'est beaucoup moins vrai aujourd'hui que ça ne le fut dans le passé, ne serait-ce que parce que les banquiers centraux ont bien conscience du fait qu'une remontée, je vous l'ai dit tout à l'heure, trop rapide, risquerait donc de ralentir le rythme de la croissance. Donc aujourd'hui, je pense que les investisseurs ont acté le fait que cette remontée des taux serait graduelle et donc sont plus focalisés sur la dynamique de reprise de la croissance en Europe en particulier, avec donc de bonnes nouvelles à attendre au niveau des résultats des entreprises. Et donc ça constituera certainement un moteur sur les marchés actions.
On parle aussi du côté justement de ces entreprises. On avait vu les grandes entreprises bénéficier de ces pays émergents pour beaucoup d'entre elles, communiquer d'ailleurs beaucoup sur ces pays émergents, sur la croissance de ces pays émergents. On verra ensemble ce qu'elles disent dans les prochains mois. Ça commence à être un peu plus prudent. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un impact justement, un deuxième semestre, on va dire, moins bon pour beaucoup d'entreprises très internationales?
Le concept des pays émergents est un concept extrêmement large, hein, puisqu'il s'étend des pays d'Asie à l'Amérique du Sud, en passant même maintenant par encore certains pays d'Afrique. Donc il faut être quand même très prudent. Je crois que la croissance, en tout cas pour ce qui est de la Chine, va rester quand même élevée, moindre, certes, par rapport à ce qu'elle fut il y a 2-3 ans, mais enfin, on nous parle d'une croissance stabilisée autour de 7-8% par an, ce qui est quand même considérable, avec donc ça, ses répercussions dans toute la zone. Toutes les entreprises européennes présentes dans cette zone vont continuer donc à surfer sur cette vague de croissance forte en Asie. Au Brésil, c'est sans doute un peu plus compliqué, mais si reprise il y a aux États-Unis et en Europe, la Chine, je veux dire le Brésil, en profitera également à son tour le moment venu. Donc il y a sans doute certaines zones effectivement qui sont dans cette phase d'ajustement un peu délicate, un peu compliquée. De là à penser que ça remettra en cause brutalement les perspectives bénéficiaires des groupes occidentaux et européens en particulier dans cette région du monde, je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là.
Justement sur ces entreprises, on a vu pas mal d'entreprises de croissance clairement achetées par les investisseurs au détriment d'autres comme des cycliques par exemple. En conclusion, peut-être quel type de valeur vous intéresse dans ce contexte qui a été un peu modifié par cette rentrée, on le disait, sur les pays émergents.
Écoutez, je pense que la thématique des valeurs cycliques et des valeurs financières va rester sans doute durable. En tout cas, en Europe, certainement. Malgré le rallye opéré ces derniers mois, elles accusent encore un retard par rapport à leur niveau de valorisation d'avant la crise. Donc, on va sans doute assister à la poursuite de la réappréciation de ces valeurs, avec en particulier un mouvement significatif sur les valeurs financières et cycliques des pays d'Europe du Sud, et je pense en particulier à l'Espagne et à l'Italie. L'Italie et l'Espagne sont dans une logique actuellement de reprise assez sensible, notamment à l'export. D'ailleurs, les chiffres de l'Espagne ont montré tout récemment. Je crois qu'on aura donc sans doute de bonnes surprises à attendre sur les financières italo-espagnoles, les cycliques d'une façon générale, et puis aussi, ne l'oublions pas, quelques valeurs de retournement. La thématique des valeurs de retournement, les valeurs dites de recovery, va reprendre, à mon avis également, toute sa place dans l'allocation d'actifs. Vous avez actuellement de très belles affaires sur la côte à Paris qui offrent un potentiel de hausse considérable. Je pense à des titres comme Carrefour, comme à Veolia Environnement, voire Vivendi, sans doute dans les mois à venir. Ce sont des titres qu'il faut avoir aujourd'hui en portefeuille, parce que leur valorisation est encore très 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 loin des niveaux de valorisation historique, j'allais dire normatif, et donc il serait dommage de passer à côté.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci
Je
Philippe
vous remercie.
de Cholet d'avoir été avec nous, donc président du conseil de surveillance de Matignon Finance.